Alors, les textes tombent bien, puisque Agnès...
Pour la pluie, c'est excellent.
C'est excellent.
Pour la pluie, alors.
Bon, on a terminé sur le pardon, avec cette figure de Mighty, Girtaner. Et là, le Seigneur nous dit, voilà, cette parole un petit peu exigeante. Avec des... Vous voyez, c'est intéressant, parce que dans la première lecture... on a cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Donc vous voyez, la nouveauté de Jésus, c'est pas de nous dire de nous aimer les uns les autres. Des fois, je passe dans les écoles et je dis aux jeunes, enfin aux moins jeunes, vous savez, Dieu nous a, on n'a pas attendu Jésus pour savoir qu'il fallait s'aimer. C'est pas très nouveau. Bon. Par contre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le pas que fait Jésus, c'est... de même que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un petit peu nouveau, c'est-à-dire que Jésus nous donne une force et nous donne un exemple extraordinaire d'amour. Hein, quand on lit finalement l'Évangile, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ben, on a giflé le Christ. Lui, est-ce qu'il a tendu l'autre joue? Oui, mais enfin, oui et non. Il a tendu tout son corps, comme dit saint Augustin, en fait. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, Jésus a été nu. Voilà. Alors, toutes ces paroles-là, la nouveauté de Jésus, c'est pas tellement dans la parole de s'aimer les uns les autres, ça, on le connaissait déjà. C'est plutôt dans le fait qu'il nous donne un exemple et il nous donne une force pour nous aimer. Donc, il nous propose des choses impossibles, d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre joue, de donner tout son corps, mais en même temps, en nous donnant, en nous demandant de vivre cette loi impossible, il nous en donne aussi la force. Derrière chaque exigence, derrière chaque commandement de Jésus, il y a un don. Je te demande de faire ça, alors ça veut dire derrière, je t'ai donné le moyen de le vivre. Quand je te dis, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ça veut dire en creux, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est ça qui est extraordinaire. La loi de Dieu est aussi une ouverture sur le cadeau de Dieu. Voilà, et c'est pour ça que la deuxième lecture dit, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc prenez conscience que vous avez en vous de vivre quelque chose d'extrêmement exigeant. Vous avez une force. Et le but, c'est pas de vivre cette loi avec nos propres moyens. On a compris qu'à un moment dans notre vie, il nous faut lâcher et il faut que Dieu commence à conduire les choses. On ne peut pas sans cesse être avec nos propres forces. Voilà, donc la première chose, vous voyez, c'est Dieu qui nous révèle une capacité que nous avons de pardonner, d'aimer, comme le monde n'est pas forcément capable de le vivre. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que il y a cette parole d'aimer vos ennemis, qui est très très exigeant, qui est assez difficile pour nous. Et je me disais, mais pourquoi en fait aimer nos ennemis? Peut-être parce que de ne pas les aimer, comme nous disait Agnès en reprenant saint Benoît, en fait ça nous fatigue. C'est plus reposant d'aimer que de ne pas aimer. Bon, c'est vrai. La haine, le pardon qui n'est pas donné, en fait se retourne contre nous et habite notre cœur, et on n'est pas très très à l'aise. Donc pardonner, on n'est pas à l'aise. Ne pas pardonner, on n'est pas à l'aise. Bon. Je pense que l'amour des ennemis, va nous habituer à la miséricorde. Certes, c'est un chemin, mais en même temps, vous savez, le ciel, c'est un lieu où il n'y a que des gens à qui on a fait miséricorde. Le ciel, c'est ce lieu où vous vous retrouvez avec la prostituée, vous vous retrouvez avec le bon larron, vous vous retrouvez avec votre assassin. Je pense à la petite Maria Goretti, hein, qui a subi cet homme de 19 ans, Alessandro, qui a voulu la violer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est décédée, mais avant cela, elle a dit, j'avais noté la phrase, « Pour l'amour de Jésus, je pardonne à Alessandro, je veux qu'il vienne lui aussi avec moi en paradis. » Voilà. Alessandro, eh bien, il voulait le corps de Maria, et Maria, elle voulait l'âme d'Alessandro. Et alors, c'est assez impressionnant, cet homme-là, parce que d'abord, il a fait 27 années de prison. Il n'a pas eu de regret, en fait, d'avoir fait cet acte. Et à un moment, en songe, une nuit, il voit Marietta, qui lui tend une fleur, comme un amoureux. Et donc, après ses 27 années de prison, eh bien, il va sortir et il va rencontrer Madame Goretti pour lui demander pardon. Oui, c'est très beau. Le pardon, il n'a pas eu tout de suite. Il n'a pas pris conscience. Mais il se songe, cette lumière, et il va voir donc la maman de Maria. Et en fait, à la canonisation, qu'est-ce qu'il y avait donc devant l'image de Maria, eh bien, il y avait l'assassin de Maria. Voilà, les deux se sont retrouvés dans ce jour de la canonisation de Maria. Nous sommes appelés à vivre au ciel, donc, avec nos ennemis, avec des gens de tout genre, tout bord. Et peut-être que, voyez, le pardon sur la terre, qui est une grâce de Dieu, eh bien, va nous habituer à la vie du ciel et va nous permettre d'accueillir aussi le pardon de Dieu pour nous. En fait, le problème du ciel, c'est qu'il faut accepter le pardon. Ne vont au ciel que ceux qui ont reçu la miséricorde. Mais si je ne me suis pas entraîné sur la terre à vivre la miséricorde, je vais arriver au ciel, je vais dire au bon Dieu, tu veux me pardonner ? Parce que nous, comme dit saint Paul, nous avons une dette infinie. Si nous savions qui nous sommes par rapport à l'amour que Dieu se déclare. Bon. Alors on peut dire, mais non, 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 moi je veux, c'est pas juste, moi je veux la justice. Je veux rendre des comptes, je veux que ça soit réglo, je veux gagner mon ciel. Mais je te donne un truc que tu peux pas payer, tu peux pas réparer. Bon. Et donc vous voyez, si je me suis habitué justement à perdre, parce que c'est ça le pardon, vous voyez, c'est s'habituer à perdre. Hein, c'est plus rentrer dans quelque chose de calculateur. Eh bien, si je laisse aller l'autre comme ça, avec son offense, sans avoir de prise sur lui, eh bien, voilà, je pense que je pourrais accepter le pardon de Dieu et la miséricorde. Un petit peu comme, vous voyez, le fils aîné de la parabole, il a beaucoup de mal à perdre. Parce qu'il a du mal à... Il est dans la justice, donc c'est pas réglo, ça. Quelqu'un qui fonctionne pas bien, qui va au loin, ben on lui redonne pas l'héritage. Ou comme les ouvriers de la dernière heure qui sont payés comme les premiers. C'est quoi cette justice? Donc voilà, le Seigneur veut nous habituer à travers ses paraboles et puis à travers notre vie sur la terre à perdre et à aimer d'une manière un peu surnaturelle pour accueillir cet amour de Dieu au soir de notre vie qui sera évidemment surnaturel. Alors, peut-être quelques clés sur le pardon avant de terminer. D'abord, le pardon ne signifie pas sentir. Voilà. Quand je pardonne à quelqu'un, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, on ne sent pas forcément. Le pardon, c'est plutôt agir, hein. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est pas tellement sentez que vous êtes bien. Alors priez pour ceux qui vous persécutent, c'est pas forcément évident. Enfin, là, il y a des personnes par exemple qui vont prier, justement, ça habite leur cœur, leur esprit. Il faut peut-être qu'elles arrêtent de prier pour la personne. Mais peut-être poser un geste, soit vers la personne. Voyez, je sais que dans les foyers de charité, par exemple, quand on a blessé quelqu'un ou on se sent pas très en paix, alors on va poser une petite fleur, eh bien, devant la porte de chambre de l'autre. Voyez, on invente quelque chose. Peut-être que la personne doit savoir qui nous sommes, qui donne le pardon, peut-être pas. Voyez, c'est très très large. Donc je vais pas donner de clés très concrètes, mais simplement demandons au Seigneur, voilà, Seigneur, par rapport à telle ou telle personne. Peut-être que cette personne n'est plus de cette terre. Hein, comment je vais poser un acte de pardon pour me libérer, moi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que j'aille la voir, pas la voir? Est-ce qu'il faut que je rende? Ensuite, le pardon suppose non pas l'oubli, mais la mémoire. Il y a des gens qui disent « je me souviens encore ». Mais l'oubli, des fois, on oublie très vite et en fait, on n'a pas pardonné. Ça s'est fait rapidement, mais c'est pas... Non, le pardon suppose la mémoire et des fois, ça habite notre corps, notre cœur. Eh bien, voilà, en même temps que j'ai l'offense, j'ai aussi ce pardon en moi, j'ai aussi voilà, ce moment peut-être où j'ai pu poser un acte de pardon et j'en fais mémoire quand tout d'un coup la haine me revient. Voilà, j'avais écrit aussi « Si nous souffrons de n'avoir pas pardonné, c'est que nous avons déjà pardonné. » Si nous souffrons de n'avoir pas pardonné, c'est que nous avons déjà pardonné. Vous voyez, si ça nous gêne, eh bien, si on est mal à l'aise avec ce pardon, c'est peut-être qu'on a déjà pardonné en quelque sorte. Voilà. Dans les agapés, vous savez, les retraites un peu de guérison. Alors, quand on fait un acte de pardon par rapport à une personne, que cette personne n'est plus forcément là, qu'on ne peut pas la... Voilà. C'est pas forcément bien de la revoir, parce que la revoir, ça serait raviver des choses. Eh bien, on note sur un papier, voilà. Seigneur, je te demande de libérer cette personne de la haine, de la difficulté, de l'offense qu'elle m'a faite. Voilà, je l'écris. Pourquoi? Pour sortir, voyez, de nous, eh bien, ce qui est en nous, ce qui est confus, ce qui n'est pas dit. La parole crée toujours la lumière, je la marque. Ensuite, je la dis à haute voix, hein, dans ma chambre. Et puis ensuite, je vais avec un frère ou un prêtre, eh bien, dire, voilà, cette parole, voilà, devant une tierce personne, et du coup, voilà, il y a quelque chose de l'Église, du frère qui a entendu, et de ce moment où j'arrive à mettre comme une étape dans ma vie, où j'ai eu cette grâce, eh bien, de pardonner à voix haute. Voilà, ça demande du temps, bien sûr, mais Dieu nous appelle à vivre l'impossible. Donc il nous faut, je pense, chacun d'entre nous, être un petit peu dans l'espérance. Les saints, ce sont des gens qui arrivent à faire des choses qui ne sont pas humaines. Et depuis que nous sommes baptisés, je pense la plupart, en tout cas ou ceux qui cheminent vers le baptême, eh bien on va découvrir en fait qu'on a une capacité à faire des choses qui nous dépassent. Et donc réjouissons le cœur de Dieu d'utiliser cet Esprit Saint qui habite en nous et que nous avons un peu plus découvert ce week-end. Apprenons à le faire vivre en osant, en risquant, eh bien, ces actes surhumains. Amen.